Le grand témoin.
Bonjour et bon dimanche chez vous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver chaque dimanche pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin dans ce studio avec moi, Monsieur Bruno Mavungu Poiti, homme politique et secrétaire général de l'UDPS. Monsieur Bruno Mavungu, bonjour.
Bonjour madame.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.
Alors avec vous dans notre entretien, Monsieur Bruno Mavungu Poiti, on va vous faire découvrir auprès des auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à travers le monde grâce à notre site internet www.radiookapi.net. Bruno Mavungu, c'est pas un nom inconnu, Bruno Mavungu comme secrétaire général de l'UDPS, mais aujourd'hui on va entrer un peu dans votre intimité, en savoir un peu plus sur votre personne. Dites-nous, vous êtes né où et quand?
Je suis né en 1952. Je suis originaire du Congo central, de la province du Congo central, district du Bas-Fleuve, territoire du Tchiela, secteur de Nzobelouzi, voilà.
Alors Bruno Mavungu a grandi où? À Kinshasa ou dans le Congo central?
Non, je suis né au village. Comme j'ai grandi aussi au village, j'ai étudié à l'intérieur, plus précisément, mes humanités à Kangou. Et j'ai donné cours aussi à l'intérieur avant de venir à Kinshasa. J'ai fait beaucoup de choses, dont le commerce, je fais les déclarants en douane, je fais les fonctionnaires. Donc je fais beaucoup de choses avant
de vous lancer en politique.
Donc d'abord refaire mes études supérieures, je fais les droits.
À l'université de Kinshasa?
Non, à l'université libre de Kinshasa. Je suis licencié en droit. J'ai même prêté serment comme avocat.
Donc vous êtes avocat?
Je suis avocat.
Maître Bruno Mavungu.
Oui, c'est ça.
Vous avez grandi dans quelles conditions, Maître Mavungu?
J'ai grandi comme tout le monde un peu à l'intérieur, surtout chez nous, de parents paysans. Donc, voyez un peu ce que c'est là.
Que vous ont appris dès les bas âges l'agriculture, les travaux champêtres.
Oui, on a vécu de ça. On montait en âge en suivant papa ce qu'il faisait. C'est le champ, c'est un peu chez nous l'huile palmiste. Et quand j'ai terminé mes humanités, évidemment, j'étais recruté enseignant. J'ai donné cours pendant 3 ans avant de venir ici à Kinshasa.
Là, vous parlez de vos études humanitaires?
Oui, j'ai fait les humanités pédagogiques. Oui.
Vous étiez quel genre d'enfant?
Bon, j'étais...
Calme, turbulent?
Oui, non, je n'étais jamais turbulent, j'étais très calme. Et j'étais parmi les meilleurs enfants.
Ok. Alors, vous venez à Kinshasa, vous vous lancez dans plusieurs choses, les affaires, vous dites.
Oui, je suis venu à Kinshasa et j'ai commencé par être fonctionnaire au ministère du Travail. J'ai suivi une formation de déclarant douane. J'étais déclarant douane à l'aéroport d'Ndjili. Et puis après, je me suis débrouillé, j'ai commencé à vendre et j'étais vraiment, j'étais un peu prospère quand même dans le commerce jusqu'au moment où, en 90, avec le pillage, voilà, on m'a tout pillé.
Ah, ça devrait être dur pour vous, hein?
Et certainement, c'était très dur, très dur.
Comment vous avez vécu ça?
Non, c'était quand même assez grave parce que j'avais déjà une grande famille. Alors, on était déjà habitués dans un mode de vie quand même assez...
Aisé.
Quelque peu aisé quand même. C'est-à-dire, je pouvais faire face à tout le besoin. Mais après, c'était très compliqué. C'était très compliqué.
Alors, en parlant de famille, vous êtes marié, père de combien d'enfants?
Oui, je suis marié, père de 8 enfants.
Et c'est à cause du pillage de 90 que vous vous êtes décidé de vous lancer en politique, puisque c'est en cette année-là que vous avez commencé...
Pas nécessairement. C'est-à-dire que même avant que le pillage soit arrivé, j'étais déjà militant de l'UDPS. J'étais déjà militant et ma position de commerçant m'a vite admis au corps de membres d'honneur. J'aidais plutôt les partis
financièrement.
Financièrement. Alors, évidemment, quand j'étais pillé, bon, ça, je n'avais plus de moyens. J'étais pris aussi dans les groupes de réflexion de l'IDPS avant d'être, en 94, d'être choisi parmi les secrétaires nationaux. Alors, en ce moment-là, le secrétaire général, c'était le docteur Pong. Alors, j'étais pris comme secrétaire national.
Chargé de quoi?
Chargé des ONG, des relations avec des ONG. Ça, c'est sous Pongo. On a cheminé, et quelques temps après, je crois plusieurs années quand même après, c'était Massamba qui devenait le secrétaire général, et j'ai été nommé secrétaire national aux petites et moyennes entreprises. Nous avons cheminé avec Massamba, et plusieurs années après aussi, il devrait être nommé lui à un autre poste, et nous c'est M. Alexis Moutanda qui devenait le secrétaire général, et moi j'étais nommé secrétaire national à l'organisation politique et administrative du parti.
Qu'est-ce qui vous a attiré en politique?
Bon, écoutez, depuis mon enfance jusqu'à ce jour, j'aime servir. J'aime servir parce que même avant ceci, j'étais toujours dans plusieurs organisations, peut-être souvent cotériques, ou même des anciens élèves de telle école, de ceci, de cela. Généralement, même à l'école, je ne manquais jamais d'avoir de responsabilités. Donc j'étais habitué à m'occuper des autres. Donc je sais que je dois servir. Et c'est vraiment ça qui m'anime.
Et donc en 90 déjà, non, c'était même avant 90 que vous avez adhéré à l'UDPS.
Oui, oui. En 90, j'étais déjà à l'UDPS. Et certainement que quand on apprenait tout ce qui se faisait, les arrestations, les relégations, nous suivions tous tout ça. Mais on suivait ça de loin. Et quand la possibilité est arrivée, c'est-à-dire on a programmé le multipartisme, alors à ce moment-là, évidemment, on s'est jeté.
Alors, vous avez été secrétaire national, chargé de tel, mais apparemment, vous n'étiez pas très actif, hein?
Non, mais on a toujours été actif, mais vous voyez, chez nous, en fait, c'est un gouvernement. C'est un gouvernement. Le chef du gouvernement, c'est le secrétaire général. Le secrétaire général, il y a... Et ceux qui sont vus beaucoup plus, ce sont ceux qui s'occupent de la presse. Et vous tous, vous vous occupez chacun de son domaine. Moi, j'étais dans l'administration. Je ne pouvais être connu qu'au sein du parti, pas nécessairement à l'extérieur.
À l'extérieur. Alors aujourd'hui, vous êtes secrétaire général. Vous rêviez un jour de devenir secrétaire général de ce grand parti?
Non. Tout au début, je ne pensais pas. Je ne pensais vraiment pas. Je ne sais pas. D'abord, même secrétaire national, bon, c'est arrivé. Et secrétaire général, je n'y ai jamais pensé. J'étais quand même proche de tous les secrétaires généraux. Heureusement pour moi, que ce soit Pongo, que ce soit Massamba, que ce soit le secrétaire général Alexis Moutanda. J'étais très proche, vraiment des relations très, très amicales. Alors, c'est quand Alexis Moutanda part, nous allons au congrès. Après le congrès, il y a Monsieur Chabani, Maître Chabani, qui devient secrétaire général du parti. Alors moi, je suis nommé secrétaire général adjoint. Alors, évidemment, à ce moment-là, peut-être que je commençais à voir que ça peut arriver, mais pas totalement voir que je serai secrétaire général.
Mais lorsque vous avez été confirmé ou nommé secrétaire général par M. Tshisekedi, vous vous êtes dit quoi intérieurement? Je suis capable d'assumer ce poste?
D'abord, c'est arrivé par incident. Il y a eu un incident. Maître Chabani venait d'être suspendu. Et j'étais parmi ses adjoints. Voyez. Alors, je viens d'être choisi par le président pour assumer l'intérim. Alors, Il y a beaucoup de clivages dans notre parti.
Jusqu'aujourd'hui. Hein.
Donc, ce n'était pas facile, mais il fallait faire un effort pour s'affirmer. Alors, je ne sais pas si je me suis fait... je le fais bien, mais voilà, les choses sont arrivées. Et voilà que j'ai été confirmé secrétaire général depuis 4 ans maintenant, je suis là.
Depuis 2012 que vous êtes secrétaire général de ce parti. Oui. Mais il y a plusieurs personnes qui pensent, même au sein du parti, que vous n'arrivez pas à vous affirmer comme un véritable capitaine au bord du navire UDPS.
Écoutez, dès le départ, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de clivages dans le parti. C'est un parti très vaste, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et je vous ai dit qu'il y a des clivages. Vous êtes nommé, à partir même du jour où vous êtes nommé, il y a ceux qui disent non. Alors c'est toujours très difficile en politique. Et il faut vraiment trouver des gens de bonne volonté qui peuvent dire non aujourd'hui et changer leur non en oui demain, pas nécessairement. De telle sorte que... mais je crois que si je ne m'étais pas affirmé, je ne vois pas pourquoi on m'aurait gardé à ses portes jusqu'à ce jour, parce que je ne suis pas le seul cadre du parti.
Parce que vous êtes, semble-t-il, très proche de la famille biologique d'Étienne Tshisekedi. C'est comme ça qu'on vous garde encore à ce poste?
Bon, je ne sais pas. Je vous ai dit que j'étais du Congo central. Et la famille, c'est quand même les Kassai. Donc, proche de la famille, je vous ai dit que dès mon enfance, je ne suis pas quelqu'un qui aime des problèmes. Est-ce que respecter les gens, c'est ça, on peut faire des reproches à quelqu'un parce qu'il respecte les gens, surtout les vieilles personnes ou les gens qui ont plus d'expérience, qu'est-ce qu'il faut faire? Je respecte le président, comme tout le monde essaie de les respecter. C'est quand même pour nous un grand monument, nous les respectons. Je respecte les prescrits de nos statuts, donc je ne vois pas. Et proche de la famille, je crois que je me fais accepter par tout le monde ou par toutes les personnes qui ont de l'influence dans le parti.
4 ans comme secrétaire général de ce parti, comment vous n'arrivez pas à mettre de l'ordre dans le parti? Puisque vous-même vous parlez des clivages au sein du parti, mais comment vous n'arrivez pas à mettre de l'ordre? Qu'est-ce qui se passe?
Mais quand on parle de clivage, ça ne veut pas dire qu'il y a un désordre. Parce qu'au Parti Socialiste Français, il y a des clivages. Il y a des clivages, il y a des tendances, vous voyez, chez les républicains, mêmement en France. C'est comme aux États-Unis, chez les démocrates, comme chez les républicains. Il y a des tendances, ce sont des clivages. Quand je dis clivage, je ne veux pas dire qu'il y a des problèmes, il y a un des autres.
Mais non. C'est l'impression que ça donne, hein, au sein de l'UDPS.
Non, non. Écoutez,
vous parlez des clivages, mais on a l'impression qu'il y a un désordre.
Non, non. Écoutez, c'est vrai. C'est-à-dire que vous aurez voulu que ce soit comme Radio Capi. On vous donne des ordres. Chacun sait ce qu'il doit faire. Et vous devrez vous affirmer à l'intérieur, tout ça. Mais la politique, ça peut être différent. Il y a ceux qui veulent aller vite, qui veulent ressortir, qui doivent... aller dans le média, peut-être de manière désordonnée, j'accepte. C'est tout ça qu'il faut gérer.
Ben oui, vous devez gérer tout ça, vous devez mettre de l'ordre, vous êtes quand même secrétaire général.
Il faut mettre de l'ordre, mais il faut savoir faire de l'ordre. Quand j'ai pris l'exemple de Radio Capi, Radio Capi c'est une entreprise, peut-être commerciale, tout ça. Mais là-bas c'est un parti politique. Chaque membre c'est un leader politique. Vous voyez, il y a des statuts à suivre. Et celui qui ne suit pas le prescrit des statuts, on les
il
n'y
a pas une direction de discipline.
Il y a une commission de discipline. Il est la commission de discipline s'est saisie du dossier. Et puis il y a des punitions qu'on peut administrer. Mais quand je parle de clivage, je parle plutôt de tendances. Et ces tendances, il y a certaines tendances vraiment plaquées et qui vous disent non, qui n'attendent que des failles pour vous faire partir. Donc si j'ai tenu jusqu'à ce jour, madame, je vous dis que c'est parce que je le fais bien.
Parce que vous avez le soutien de M. Tshisekedi.
Non, non. Mais c'est tu sais qu'il par exemple maintenant le président est absent au pays. Et c'est depuis bientôt, en tout cas plus d'une année. Et je vous assure, notre parti est très compliqué à gérer, surtout en l'absence du président. C'est une personne, une grande personnalité qui a pris beaucoup de poids dans le parti. Vous voyez? Alors vous devez le gérer en son absence. J'avoue que c'est quand même un problème. Alors, mais néanmoins, bon, vraiment c'est difficile que moi-même je continue à dire que je le fais très bien. Mais écoutez, je crois que le parti est là et beaucoup de gens s'en félicitent.
Mais on m'a laissé entendre que vous ne jouissez pas d'une grande popularité au sein des militants de l'UDPS.
Non, je ne sais pas sur qui vous êtes tombé. Parce que je ne vous en voudrais vraiment pas, parce que vous ne connaissez pas les gens. Vous pouvez tomber, par exemple même le Parlement de Bouc que nous avons à travers la ville, vous pouvez tomber sur un Parlement de Bouc où vous trouvez des gens vraiment hostiles au secrétaire général. Donc, vous ne pouvez pas les changer. Donc, c'est comme ça.
Vous semblez être effacé quand même, M. Bruno Mavungu.
Non, je fais cet effort pour ne pas trop paraître non plus. Parce que ça fera beaucoup plus de problèmes pour gérer ces partis.
Vous êtes quand même secrétaire général. Je
suis secrétaire général, mais nous avons... parce que jusqu'à ce jour, notre produit à présenter à la population reste encore Étienne Tshisekedi Wamalwa. Donc c'est lui le produit, jusqu'à ce que peut-être les choses peuvent se présenter autrement. Donc en tant que secrétaire général de l'UDPS, c'est beaucoup plus l'administration du parti. Du point de vue de la politique, c'est le président. Alors, vraiment, je m'écarte vraiment d'entrer trop dans son domaine.
On a l'impression que l'UDPS est en train de disparaître petit à petit à cause des divergences internes qui sont quand même très profondes.
Non, les divergences, je crois qu'il faut dire. Quand j'ai dit qu'il y a des gens, vous trouvez peut-être des gens hostiles à moi, mais ils ne vous diront jamais qu'ils vont quitter l'UDPS. Et tout au moins qu'ils peuvent espérer, c'est un jour que je parte de ce poste et que leur tendance puisse prendre. Le parti existe, je peux vous dire, vous rassurer, pas seulement qu'il est le premier parti de l'opposition, mais c'est le premier parti du pays. Il y a quelques mois, il y a une ONG internationale qui venait d'effectuer une mission à travers tout le pays et qui a fait un rapport sur l'implantation de tous les partis politiques à travers le pays, et bien c'est l'UDPS.
Qui est implanté partout.
Partout. Donc, le parti reste le plus grand. Mais vous devrez comprendre qu'il y a toujours des enjeux. Au moment où nous, on implantait l'UDPS, c'était à l'époque de Mobutu, avec ce qu'il y avait comme effervescence, tout ça, aujourd'hui, c'est peut-être il y a d'autres enjeux. Aujourd'hui, quand nous parlons du dialogue, nous n'avons pas besoin nécessairement, parce que nous avons travaillé pour amener le peuple congolais à accepter les dialogues. Nous avons fait des meetings, nous avons fait des marches, et ça, nous sommes arrivés à faire admettre cette affaire dans la population.
Alors là, vous abordez déjà l'aspect actualité. On va y revenir tout à l'heure, M. Bruno Mavungu. Mais dites-moi, comment vous arrivez à gérer toutes ces humeurs au sein du parti?
Oui, mais c'est ça justement, pour vous dire que c'est pas toujours facile.
Parfois, vous n'avez pas envie de lâcher. Vous vous dites, je vais arrêter ces histoires.
Non, on ne peut pas lâcher. Non pas parce qu'on est avide de pouvoir, d'abord rien, c'est vraiment pas, c'est comme je l'ai dit, le pouvoir, c'est un pouvoir pas nécessairement, mais c'est un service, et surtout pour l'UDPS, c'est dans le cadre des services. Alors vous ne pouvez pas lâcher, parce qu'il y a plusieurs enjeux au sein du parti. Il y a aussi, c'est toujours le parti phare qui regarde le pouvoir en face. Et voyez, nous sommes des combattants. Et quand vous dites que vous êtes des combattants, c'est dire que vous êtes au combat. Et quand vous êtes au combat, vous pouvez vous donner des coups, mais vous recevez aussi des coups, n'est-ce pas? Alors, maintenant c'est face, vous donnez des coups à qui? Au pouvoir. Et le pouvoir ne se laisse pas faire. Il vous donne des coups, de tout genre, je vais dire.
Ils peuvent utiliser, le pouvoir peut utiliser même votre entourage.
Mais je dis, tout ça, il faut gérer tout ça. Il faut gérer tout ça. Et quand vous avez parlé de divergence, de beaucoup de choses, c'est tout ça. Quand quelqu'un vient dire ceci, alors que le parti a dit cela, alors, mais vous ne pouvez pas soupçonner. Vous devrez gérer tout ça comme un responsable, comme un père de famille. C'est ça qui rend la tâche complexe. Mais c'est là aussi qui rend la beauté de cette tâche-là, de ce service-là. Et parce que c'est ça qui vous fera soit petit, soit grand. Sinon alors, vous utilisez les moyens que vous avez pour évacuer tout le monde, alors que le rôle qu'on vous a donné, c'est de maintenir tout le monde et peut-être de faire revenir ceux qui ne sont pas encore là.
Alors, Monsieur Bruno Mavungu, on va souffler un peu avant de parler actualité. Comment vous passez vos moments de détente?
Bon, écoutez, j'ai pris. Vraiment, ce n'est pas un moment de détente, ça, parce que c'est aussi un devoir, mais j'ai des responsabilités aussi là où j'ai pris. Alors, il y a aussi la lecture. La lecture, c'est écouter le. Lire les journaux, lire des livres, lire suivre les médias. C'est tout ce qu'on fait. Puis, tout ça, on a une grande famille à gérer.
Oui. Est-ce que vous arrivez d'écouter la musique quelquefois?
Oui, la musique, c'est peut-être oui, le soir.
Le soir. Et c'est quel genre de musique que vous écoutez?
Écoutez la vieille musique.
Franco, taboulé.
Voilà.
Et ça vous ferait plaisir d'écouter un petit morceau en ce moment?
Tout à fait, tout à fait.
De qui, par exemple?
Ok. N'importe qui, mais de vieilles personnes.
De vieilles personnes.
Oui.
Voilà, on va demander à Sylvain Matundu, qui est de l'autre côté de la baie vitrée, de nous proposer une chanson. Soit de taboulé, soit de Franco, pour le plaisir de Maître Bruno Mavungu Poitiers que nous recevons dans cette émission, mais également pour tous les auditeurs des Radio Capi qui nous suivent en ce moment. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Lelo na ba vi prive o, lobi e kokoma na ba fami. Lobi na jala ki bon fè, lelo na komi opposition. Okomi na yembele, yembele, loko da mwane dike bandeko. Nyonso yoko yembelanga, nejali kaka kurso pouvoi. Olo binga na nyati li yanti, yo nyati toka mon frère. Yango ye kouke pouvoir. Kosala semblant la mona mona sala yo. Olinga kato yo kakateo Okoko asali likambo boye Olinga kato sala konkurense Lamboya eko zanga kayo Obo mimi ziki ya batoe Nalo kato na yo eko miyo
de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Voici celui que Grand Témoin vous présente aujourd'hui. Il est en politique et secrétaire général de l'UDPS. Monsieur Bruno Mavungo, parlons actualité. L'actualité aujourd'hui, c'est le dialogue. Tout le monde parle du dialogue. Quelle est la position finalement de l'UDPS? L'UDPS est pour ou l'UDPS est contre le dialogue? Parce qu'il y a une certaine confusion qui s'est créée sur la position de ce grand parti politique.
Non, c'est une confusion entretenue, parce que ne devrait pas avoir une confusion. C'est entretenu et on sait pourquoi on entretient ça. Il y a eu des élections en 2011 et tout le monde sait ce qui s'est passé. Et nous avons toujours cru, nous à l'UDPS, que c'est Étienne Tshisekedi qui a remporté cette élection. Et nous savons qu'on a empêché M. Étienne Tshisekedi d'exercer le pouvoir. On l'a empêché en utilisant la force des armes. Et il est arrivé qu'on puisse connaître des problèmes, même dans cette gestion du pouvoir qu'ils ont ravi. Il y avait des guerres. Et à un moment donné, en 2013, la communauté internationale a fait signer à tous les présidents de la sous-région un accord qu'on appelle accord cadre d'Addis Abeba. Et cet accord cadre demander à la classe politique congolaise de se réconcilier. C'est là-dedans qu'on trouve le dialogue, parce qu'on ne va pas se réconcilier sans qu'on se parle. Dans l'entretemps, à l'UDPS, nous ne reconnaissons ni chef de l'État, ni l'Assemblée nationale, aucune institution.
Mais vous avez quand même des députés au Parlement.
Nous n'en avons pas, madame. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Puisque nous sommes des non-violents, c'est ce que nous avons accepté nous-mêmes. Nous avons accepté de dialoguer. Et nous étions les premiers à comprendre qu'il faut dialoguer. Donc, Étienne Tshisekedi était le premier. Et nous nous sommes mis à expliquer à nos compatriotes congolais de l'intérieur du pays. Et moi-même, je suis parti à deux reprises en Europe expliquer à la diaspora congolaise qu'il faut dialoguer avec Kabila. Madame, je vous dis que ce n'était pas facile. Alors,
vous allez dialoguer avec M. Kabila, lui en tant que qui, puisque vous ne reconnaissez pas son pouvoir.
Oui, mais on ne dialogue pas avec lui. Justement, c'est ça le problème qui essaie de se poser aujourd'hui. Il veut à tout moment prendre les devants, par exemple pour convoquer les dialogues, alors que pour nous, il est partie prenante comme nous. Merci d'ailleurs d'avoir posé cette question. Parce que pour nous, il est partie prenante, qu'il accepte de venir au dialogue comme partie prenante au dialogue. Donc, nous avons lancé cette affaire du dialogue et le président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, a signé au mois de février 2015, a envoyé une feuille de route, c'est-à-dire toute la démarche de l'UDPS sur ces dialogues. Et c'est seulement vers le mois de septembre, ou octobre d'ailleurs, que M. Kabila nous a envoyé un émissaire pour nous dire que lui aussi était prêt à dialoguer. Donc, je voudrais seulement dire que nous avons accepté à dialoguer, nous, et c'est nous qui avons lancé à tous nos compatriotes, de l'intérieur comme de l'extérieur, l'idée de ce dialogue. Donc, ce n'est pas nous qui pouvons encore nous rétracter pour dire « nous ne voulons pas de ce dialogue ». C'est pourquoi je vous dis que c'est une confusion entretenue.
Donc l'UDPS est pour le dialogue.
L'UDPS est pour le dialogue et le dialogue aura lieu.
Sans condition, sans une médiation internationale, comme le réclamait avant Étienne Tshisekedi. Et même dernièrement, il a adressé une lettre à Madame Zuma concernant Monsieur Edem Kodjo qui est venu consulter différentes parties pour ce dialogue. Dans cette lettre, il pose des conditions. Sans une médiation internationale, il n'y aura pas de dialogue.
Mais Madame, il faut que les gens comprennent qu'il n'y a pas de conditions qui soit posé par l'UDPS. Quand nous parlons de la médiation internationale, je vous ai dit ici que la source de ces dialogues,
c'est l'accord cadre d'Addis Abeba.
Et l'accord cadre est expliqué par trois résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc l'exécution de cet accord est expliquée. Et c'est dans ces résolutions du Conseil de sécurité qui disent qu'il faut avoir... C'est une médiation internationale. L'accord est international.
S'il n'y a pas de médiation?
Écoutez, l'accord est international. Donc toute la suite, c'est une suite logique. Donc ce n'est pas l'UDPS qui exige, mais c'est l'accord qui exige. Alors, tout ce que vous voyez là, vous avez dit, M. Étienne Tshisekedi a écrit à Mme Zuma, et à ceci. C'est juste à chaque fois que certains partenaires à ces dialogues veulent quitter soit l'accord ou n'importe quoi, mais il faut qu'on leur dise non.
Il faut recadrer les choses.
L'accord. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on est exigeant. Parce qu'il ne faut pas violer cet accord international.
Mais au cas où, M. Bruno Mavungu, le président convoque ce dialogue sans médiation internationale, l'UDPS prendra part, oui ou non?
Mais quel est ce président qui va convoquer le dialogue? Parce que je vous ai dit que l'UDPS ne reconnaît pas un président de la République. Ça, nous l'avons dit et redit. Alors, quel est ce président maintenant qui va convoquer un dialogue? Auquel dialogue nous, l'UDPS, va participer? Il n'y en a pas. Donc nous devons faire la part des choses.
Et donc vous attendez la médiation qui viendra seulement des Nations Unies?
Mais cette médiation va venir parce que c'est un accord international. Sinon alors, pourquoi la communauté internationale a fait signer un accord qui ne veut plus exécuter? Voilà.
Et même si ça prenait le temps que ça peut prendre, vous allez attendre ce dialogue?
Mais madame, il est impérieux qu'on puisse parler. S'il y a des gens, nous sommes prêts à dialoguer. Il y a des gens qui sont déjà prêts à dialoguer. On trouve certaines résistances, mais on sait qu'on finira par là. Donc, si pour certaines personnes, si ça doit prendre du temps, mais c'est bon. Puisqu'il y a des gens qui nous ont amenés dans des guerres qui ont pris beaucoup de temps.
Donc pour vous, la priorité, ce ne sont pas les élections, comme certains partis de l'opposition qui estiment qu'il faut, on n'a pas besoin de ce dialogue, il faut aller aux élections.
Tout le monde a besoin du dialogue avant d'aller aux élections. Parce que même ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin du dialogue, mais ils vous diront qu'il faut une rencontre entre la CENI, la majorité et l'opposition. Et pourquoi? Et pourquoi une telle rencontre? Qu'est-ce que le mot dialogue, c'est ça qui fait fâcher? Parce qu'il faut quand même... Et pourquoi cette rencontre-là entre la majorité, opposition et CENI? Il devrait seulement dire que nous, nous attendons qu'on nous appelle pour les élections. Donc, nous tous, nous sommes pour les élections. Nous sommes pour les élections.
Mais...
Et nous tous, nous voulons de bonnes élections.
Mais, avant tout, il faut dialoguer, c'est
ça. Écoutez, nous tous, nous sommes pour les élections. Ils ne vont quand même pas dire que l'UDPS ne veut pas des élections. Ils ne peuvent pas le dire. C'est comme ils ne peuvent pas dire non plus que elles n'attendent pas de bonnes élections. Ils ne peuvent pas non plus dire qu'elles ne veulent pas des élections apaisées. Non. Ils ne peuvent pas dire non plus que eux, quand ils viennent que pourra, même s'il faut encore que ces élections nous amènent à des guerres, non, ils ne peuvent pas dire ça. Ils veulent tous les élections apaisées. Alors,
dans le respect de la Constitution.
Alors, oui, exact. Tout le monde dit la même chose. Et comme nous. Mais alors, maintenant, comment arriver à des élections apaisées? C'est là tout le problème. Mais ils disent quand même, oui, nous, pour arriver aux élections apaisées, une rencontre majorité, opposition, CENI.
Comme ça a toujours existé, oui. Sur des questions qui concernent le processus électoral.
Ils ont toujours été là.
Il y a un cadre.
Oui, ils ont toujours été là, dans ce cadre-là, ils ont toujours parlé. Je ne sais pas si quelque chose a changé. Donc, c'est pour vous dire que c'est peut-être... l'UDPS ne va pas se lancer dans la discussion des termes ou des mots. Il faut nécessairement une rencontre qui permettra d'arranger un certain nombre de problèmes. Hein? Parce que certains problèmes, il faut qu'on arrête un certain nombre de points de manière consensuelle.
Alors, si on doit comprendre l'esprit de la lettre de M. Étienne Tshisekedi adressée à Mme Zuma, c'était juste pour recadrer les choses.
Mais exactement. Je connais nulle part. Vous avez très bien lu cette lettre. C'est une lettre très polie, adressée à une grande autorité africaine. Et M. Étienne Tshisekedi dit qu'il est disposé. Il attend toujours. C'est juste pour recadrer, parce qu'il y avait un peu un dérapage qui était fait quelque part. Donc, c'est pour dire que M. Kabila est partie prenante. Donc, il ne peut pas être là. Il ne peut pas convoquer. Alors, c'est une chose assez facile à comprendre.
Alors, Maître Bruno Mavungu, quels sont vos rapports avec les autres partis politiques de l'opposition? On a l'impression que l'UDPS n'aime pas trop s'associer aux autres partis politiques de l'opposition. L'UDPS veut faire chemin seul.
Madame, quand nous sommes allés aux élections de 2011, beaucoup de gens de ces partis politiques se sont fait élire au nom des Tshisekedi Tshiseki. Donc, c'est vous dire que nous étions avec eux. Ils nous ont abandonnés. Quand on a publié les résultats, ils sont partis, ils nous ont abandonnés. Ils sont partis.
Le souhait de l'UDPS, c'était que ces partis ne siègent pas à l'Assemblée ou au Sénat.
Écoutez-moi, je vais bien.
Plutôt à l'Assemblée.
Oui, ils ont siégé. Et aujourd'hui, ils invitent les gens dans les rues. Parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas trouvé de solution aux problèmes qui se posent au pays, ils n'ont pas trouvé de solution au Sénat. Aujourd'hui, c'est eux qui parlent de la rue et qui sont dans les institutions. Et nous, on savait qu'ils n'allaient pas trouver de solution. Même eux le savaient, parce que c'est eux qui criaient que dans cette Assemblée nationale, on trouvait des gens qui n'étaient pas élus, qui étaient carrément nommés. Et dans une telle assemblée, écoutez, on a fabriqué une majorité. Ils savaient pourquoi on devrait monter une telle majorité. Alors, nous, à un certain moment, puisque après la signature de cet accord cadre, M. Kabila a cherché à sa manière à concrétiser cet accord. Il a convoqué les concertations.
Les concertations nationales.
Nos amis là de l'opposition ne sont pas allés à ces concertations. Nous, on ne pouvait même pas aller parce que c'était convoqué par M. Kabila. Mais eux, qui sont dans les institutions, ne sont pas allés dans cette concertation. Clairement, créant même une coalition pour les vrais dialogues. Ils ont créé ça. Et ils ne sont pas allés aux concertations en attendant un dialogue. Et nous, nous avons accepté les dialogues. Et nous nous sommes joints à eux. Nous avons cheminé ensemble pour réclamer les dialogues. Nous avons organisé avec eux des meetings, des marches, des sittings, demandez-leur si c'est l'UDPS qui a quitté le groupe. C'est eux qui ont quitté le groupe.
Et donc le parti UDPS reste constant dans sa
démarche. Écoutez, quand nous prenons un engagement, nous sommes sérieux. Quand nous avons pris l'engagement que nous allons au dialogue, mais vous voyez des tergiversations de pour nous décourager, mais nous tiendrons. C'est un engagement pris. Jusqu'à ce jour, madame, nous n'avons jamais compris.
Donc vos rapports ne sont pas au beau fixe.
Avec les amis. On se parle très bien. Je sais qu'à un certain moment, ils voulaient nous diaboliser. Ils voulaient diaboliser l'UDPS. Juste dire à la population qu'en acceptant le dialogue, nous avons trahi la population. Ça, ils ont voulu nous diaboliser. Et ça, je n'ai pas aimé. J'ai fait ce que je devrais faire et je crois qu'ils ont cessé. Ils ont cessé. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'on est dans une démarche et sans dire aux autres partenaires pourquoi il fallait changer la démarche. Et on va crier dans les médias et pour se faire boule. Non, cette population souffre. Elle a souffert, elle continue à souffrir. Il faut trouver des solutions, alors des vraies solutions.
Alors, il y a certains observateurs qui estiment...
Donc, qu'on nous accuse de pas que l'UDPS aime aller seul, non.
Alors, l'UDPS accepte d'aller à ce dialogue selon ce que nous avons entendu pour se partager le pouvoir, se partager le gâteau avec le régime en place.
Madame, je vous ai dit que l'objectif premier que nous recherchons, c'est des élections apaisées. Parce que l'UDPS, je vous ai dit que l'UDPS, c'est le parti, le plus grand parti politique. C'est le seul à être bien implanté dans le pays. Et je peux même dire que c'est le seul parti national. Donc, si les élections sont très bien organisées, l'UDPS les remporte.
Dans le délai.
Oui. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que le gens pouvaient nous dire. À la veille de l'élection de 2011, madame, vous vous souviendrez que l'UDPS se faisait massacrer sur ce boulevard du 30 juin, chaque jeudi, pour réclamer à vérifier les serveurs. Mais l'UDPS n'était pas le seul parti politique à présenter un candidat, mais les autres étaient là. Et nous faisions ça pour nous partager le pouvoir. On nous tillait pour aller nous partager le pouvoir. Donc, à chaque enjeu, c'est l'UDPS qui a toujours pris les devants. Au jour d'aujourd'hui, nous disons ce qu'ils ne veulent pas dire. Qu'ils ont travaillé, ils ont d'abord installé M. Kabila, ils ont travaillé avec lui, et aujourd'hui, ils ont difficile à dire à la population qu'il est possible que M. Kabila ne soit pas prêt à partir. Ils doivent s'assumer. C'est seulement la jouissance. Après avoir joui, et puis on trouve des faux fouillants ailleurs, et c'est l'UDPS. Nous allons nous partager le pouvoir. Pourquoi nous n'avons pas cherché à nous partager le pouvoir déjà au lendemain de la publication des élections? Parce qu'on pouvait les réclamer.
Voilà, monsieur Bruno Mavungu, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. La réalisation me signale qu'on n'a plus beaucoup de temps. Peut-être un dernier mot à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Oui. Merci, Radio Okapi m'offre bien l'opportunité de dire à toute la population que nous allons au dialogue. L'UDPS reste toujours attaché à l'idée du dialogue. Et le dialogue devrait être convoqué sous l'égide de la communauté internationale. Et nous allons régler tous les problèmes liés au processus électoral pour que cette fois-ci, les Congolais puissent être dirigés par leurs élus, alors de vrais élus, et reconnaître les institutions de la République qui seront mises en place.
Merci beaucoup, Maître Bruno Mavungu Poissy. Je rappelle que vous êtes en politique et secrétaire général de l'UDPS. Encore merci d'être venu dans le studio de Radio Okapi. Merci à Sylvain Matundu qui était à la prise de son au micro Kéline Couté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.